hombre y un bisbayo casado de gasal. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai été de compagnie au personnage. Je pense qu'en se rencontrant les deux, la vie de mes présidents trouvait une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci pour votre fidélité à l'émission Parole aux auditeurs, l'émission qui vous permet de donner votre point de vue en direct sur les antennes de Radio Capi concernant le thème du jour. Et à propos de notre thème du jour, justement, nous revenons aujourd'hui sur le sujet concernant les violences sexuelles, sujet que nous avons abordé mardi dernier, mais à cause des problèmes téléphoniques, beaucoup d'auditeurs n'y sont pas intervenus. Le nombre de nouveaux cas de viol enregistrés au premier trimestre 2009 pour ceux qui vouent est relativement élevé en comparaison avec les données enregistrées en 2008. C'est selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA. Près de 1300 cas de viol déjà enregistrés dans cette province rien qu'au premier trimestre 2009 contre près de 2300 pour toute l'année 2008. C'est plus de la moitié du chiffre enregistré toute l'année passée. Quelles sont alors les causes de ces phénomènes qui prennent de l'ampleur en RDC, surtout au sud Kivu, et quelles sont les mesures urgentes à prendre pour réduire rapidement ce phénomène? Parole aux auditeurs vous donne l'occasion de réagir. À ce sujet, nous avons une invitée dans cette émission, Madame Joséphine Ngalula, elle est présidente de l'ONG Réseau Action Femmes. Très bonne condition d'écoute à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Madame Joséphine Ngalula, bonjour.
Je suis.
Voilà, donc comment expliquer d'après vous l'augmentation des cas de viol au sud Kivu, où déjà au premier trimestre 2009, on dépasse la moitié de tous les cas enregistrés en 2008, est-ce à cause de l'impunité ou c'est la raison en est une autre?
Bien, moi je crois que le problème de l'augmentation des taux des cas des victimes des viols dans l'est de la RDC est dû particulièrement au problème de l'insécurité. Et aussi les problèmes de l'impunité, parce que les différents auteurs de viol n'ont jamais été inquiétés. Au contraire, après, ils se retrouvent autour d'une table pour des négociations et ce sont des gâteaux qui se partagent. Et je me dis, les autres qui sont dans les groupes armés ou bien dans les différentes factions ne peuvent que se complaire dans cette pratique. Et c'est là qui explique l'augmentation de taux de violences sexuelles dans les zones des conflits armés. Voilà un peu mon point de vue à ce sujet.
Voilà. Et vous avez l'impression que le gouvernement n'y fait pas assez pour réprimer ce cas de viol ou c'est peut-être les victimes qui ont peur justement de saisir la justice, aussi bien civile que militaire.
Disons, dans les deux cas, c'est valable, parce que je l'ai dit, les victimes sont, dans la plupart des cas, des personnes démunies. Elles n'ont pas la possibilité de saisir la justice, et même si elles sont accompagnées par les organisations de défense des droits des femmes ou les organisations de défense des droits humains en général, il y a les problèmes des frais de justice qui se posent. Et en fin de compte, il n'y a même pas, disons, dédommagement. Et c'est ça qui fait que bon, les victimes, peut-être qu'il y a d'autres qui acceptent même qu'il y ait l'arrangement à l'amiable, là où les parents, si c'est pour une fille ou bien pour, je ne sais pas mon quoi, et les parents peuvent avoir bien des causes. Et bon, il y a aussi les problèmes de distance des juridictions par rapport au... Bon, moi j'étais à Kisangani dernièrement, et dans la province orientale, il y a un vrai problème par rapport à la distance. Les juridictions ne sont pas... Les CGI ne sont pas dans d'autres coins de la République, ce qui fait que pour porter l'affaire relative aux violences sexuelles, il faut absolument aller au tribunal des grandes instances. Là, ça pose un vrai problème à ces niveaux. Et puis encore, il y a aussi de l'autre côté nos responsables par rapport à l'administration de la justice qui sont défaillants. Il y a les magistrats qui ne sont pas suffisamment payés et qui sont dédiés aux problèmes de fonctionnement et qui ne font pas leur travail comme il se doit, ils sont sous-motivés. Et je crois aussi les problèmes qui relèvent de la sécurité des personnes et de leurs biens. Mmh. Et ces problèmes, disons, cette responsabilité, et disons, revient en premier chef au gouvernement, parce que ce sont les attributs du pouvoir pour pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes.
Merci beaucoup, Madame Joséphine Galula. On vous garde encore dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Un invité en ligne, Siméon, bonjour, vous êtes à Kinshasa. Votre réaction par rapport au propos de Madame Joséphine Galula?
Oui, j'adhère à ce propos parce que la fois passée, quand j'avais intervenu, j'ai parlé des manques de moyens de défense pour ces femmes de l'Est. C'est-à-dire, apparemment, le nombre croissant de taux de violence à l'Est, c'est dû surtout à cette insécurité-là. Donc, les gens qui sont post-conflit, ils ont peur parce que la plupart de ces violences sont effectuées par les hommes en armes. Hein, les hommes en armes, patron, sont là pratiquement, les hommes ont beaucoup plus de hommes, les femmes ont plus peur de ces hommes-là, c'est pourquoi ils sont violentés. Mais moi, j'aimerais que vous étendiez plus le champ de la vision de l'émission, parce que les violences ne sont pas seulement faites à l'Est. Vous avez suivi dernièrement certaines autorités dans les Bandundu, qui étaient citées dans un journal de radio, je crois, dans la soirée, dans les cas de violences sexuelles. Donc, il faut justement élargir les champs pour voir que pratiquement toutes les femmes de la RDC sont violentées. Je vois les femmes qui sont souvent les refoulées de l'Angola. Hein, si vous prenez les refoulées de l'Angola, là vous avez aussi le cas des violences faites à la femme, qui sont pratiquement effectuées par les services de notre pays et ceux de l'Angola. Hein, voilà un peu ça.
Merci beaucoup pour votre apport et bonne journée chez vous à Kinshasa. Merci pour votre suggestion de pouvoir étendre ce sujet. Franck, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Est-ce que vous pensez que la cause principale de l'augmentation du taux des viols à l'est du pays, c'est la présence des hommes en armes, comme vient de nous le dire Siméon de Kinshasa?
Merci beaucoup pour la parole et l'opportunité que vous me donnez pour participer à notre émission, à notre chère émission, on doit dire. Oui, c'est pour moi, évidemment, c'est parmi les causes principales. Je ne voudrais pas dire que c'est l'unique cause, mais parmi les causes majeures qui font que le taux a augmenté. Mais je voulais en même temps commencer par une petite interrogation. Je me dis, est-ce que c'est parce que les yeux sont surtout focalisés sur l'Est où on estime que le taux de violence a augmenté par rapport aux autres régions, comme Simon vient d'ailleurs de le souligner. Moi, je crois que le problème est général. Le problème est partout. Figurez-vous, même au Katanga ici, l'administration publique est peut-être remarquable, sensible dans les grands centres urbains, à Lubumbashi notamment, peut-être Likasi un peu, mais dans le fond, à l'intérieur de la province. Les problèmes sont les gens, et je crois que le problème de violence vit partout avec la même rigueur. Mais pour ce qui est de l'Est, c'est parce que c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, évidemment, lorsque j'ai réfléchi un peu, il y a la présence de tous ces groupes armés qu'on n'arrive toujours pas à maîtriser. Moi, je me demande pourquoi. Et puis, deuxièmement, parmi les causes, moi, je crois qu'il y a un problème d'instruction. Hein, car on ne fournit pas assez d'efforts pour instruire la population. Alors, les gens sont comme livrés à leur abandonnés à leur propre sort. Quand quelqu'un n'est pas instruit, eh bien, il est vraiment exposé à tous ces genres de problèmes. Peut-être pour ne pas monopoliser la parole, je crois que les causes sont les gens, comme je l'ai déjà dit, mais je me limite d'abord à ce niveau-là, c'est-à-dire la présence de tous ces groupes armés-là et le problème de l'instruction.
Et comment est-ce que le problème d'instruction peut être à la base de la hausse du taux de viol à l'est du pays, notamment sur Kivu? Expliquez-vous un peu.
Merci beaucoup. Vous voyez, quand quelqu'un n'est pas instruit, on a difficile à se prendre en charge. Et donc, on est à la merci de toute personne forte, femme ou homme, n'est-ce pas, qui se présente devant vous pour vous exploiter dans un sens comme dans un autre. Or, comme vous le savez, la femme particulièrement, parce que c'est d'elle que nous parlons, elle est toujours convoitée par cet appétit-là, naturel dans les hommes. Et c'est un problème de tout le monde, de partout, même de nous autres. Mais quand on est instruit, on a une certaine modération dans sa façon de se comporter. Et dans la victime, parce que nous parlons des femmes violées, et même dans les bourreaux de ces gens-là, Or, que ce soit du côté de ceux qui violent ou de celles qui sont violées, quand on n'a pas d'instruction, eh bien, on ne sait pas parfois choisir le, on ne sait pas faire le bon choix. Et c'est pour ça que moi, je trouve que l'instruction est aussi capitale dans le problème dont nous parlons.
Donc, j'ai envie de vous poser une dernière question. Est-ce parce qu'on n'est pas instruit ou instruite, puisqu'il s'agit des femmes, qu'on accepte facilement d'être violées?
Oui, c'est-à-dire que quand on n'est pas instruite, je suis en train d'évoquer l'instruction ici, parce que quand quelqu'un est instruit, eh bien, on sait se défendre. Ça, c'est sur le plan mental.
Non, mais les femmes sont faibles physiquement. Les femmes sont faibles physiquement, mais une personne, qu'elle soit instruite ou non, elle ne peut pas admettre qu'on puisse la violer, qu'elle soit dans les villages ou en ville.
Oui, bon, je vois de l'instruction, comme je le disais. Quand quelqu'un est instruit, d'abord, c'est une espèce d'arme hein, dont il dispose pour se prendre en charge, subvenir à ses propres besoins par telle ou telle autre initiative qu'il peut entreprendre à son niveau. Mais quand l'instruction fait défaut, eh bien, vous voyez, on est comme, on n'a pas assez de force, on n'a pas de moyens, hein, qu'on peut exploiter pour subvenir à ces problèmes.
Merci beaucoup, Franck, pour votre contribution et bonne journée chez vous, dans la province cuprifère du Katanga et vous intervenez à partir de Lubumbashi.
Parole aux auditeurs.
La réalisation me signale que Bukavu, la ville de Bukavu au Sud-Kivu, dont on parle justement, le Sud-Kivu est en ligne. Et Bernard, vous êtes l'un des représentants de cette province. Êtes-vous d'accord, bonjour d'abord, êtes-vous d'accord avec Franck, que vous voyez, qui estime que s'il y a augmentation du taux de viol, notamment au Sud-Kivu, et c'est un problème général aussi à l'est du pays, c'est à cause du manque d'instruction des violeurs et des personnes violées.
Je suis à moitié d'accord, mais j'aimerais vous signaler que la province du Sud-Kivu, c'est pratiquement une province qui est pratiquement engorgée par beaucoup de cas de taux d'incidence. On peut dire que les taux d'incidence sont tellement élevés de maladies qui sont provoquées par la violence qui est faite aux femmes. Mais Claude, j'aimerais encore vous signaler que il y a de ces femmes-là qui sont en train de se déguiser en femmes de pontifères. Vous allez remarquer qu'il y a de ces filles, de ces femmes-là qui s'avouent, qui s'adonnent, qui commencent à séduire les hommes afin de coucher avec eux pour déclarer par rapport que c'est pratiquement les hommes qui ont violé et pour qu'ils puissent avoir une certaine somme d'argent vis-à-vis de ces mauvaises accusations. C'est ce que nous sommes en train de voir dans notre milieu ici. Je peux vous dire que j'ai assisté à beaucoup de scénarios comme ça. Et il y a une fille qui s'était donnée à un homme comme ça. L'homme ne voulait pas coucher avec la fille. Mais comme la fille voulait à tout prix coucher avec cet homme-là, parce que c'était un homme qui avait beaucoup d'argent, et elle s'était donnée. Mais l'homme ne voulait pas. Comme l'homme ne voulait pas, elle était obligée de pouvoir un peu accuser et dire qu'elle a été violée après avoir suivi beaucoup de problèmes vis-à-vis de ces problèmes-là. Alors, ce que moi, je déclare que ce sont des femmes qui s'avouent et qui s'adonnent eux-mêmes. Et elles veulent se coucher avec les hommes. C'est pratiquement un problème très grave que nous sommes en train d'assister ici. Mais il y a des organisations. À Bukavu, il y a des organisations qui sont en train d'envoyer les femmes au terrain pour que ces dernières déclarent qu'elles ont été violées par tel ou tel problème pour suivre la personne. Ça, c'est aussi déplorable.
Quel genre d'organisation?
Bon, il y en a beaucoup, je ne peux pas citer, parce que si je commence un peu à citer, si on va me dire que je suis en train de vilipender, et ça peut me créer beaucoup de problèmes, mais je dis que ça y est, ça existe, et ça implique, ça rassemble des gens, on peut le dire.
Envoyer des gens accusés d'avoir violé, je ne sais pas pour quel intérêt ces organisations pourraient le faire. Pour se tirer de l'argent, pour extorquer de l'argent?
Oui, c'est pour profiter seulement de, parce qu'il y a des gens qui donnent un peu le financement. Il y a des gens de pays occidentaux pour donner des financements à ça et là. Alors, quand ils essaient un peu d'envoyer les gens au terrain, et c'est dès qu'ils profitent un peu de cet argent-là. C'est ce qui sont des scénarios de grande importance que nous sommes en train d'assister aussi. Allez, c'est, vous mettez la situation, si vous êtes au terrain, Vous pourriez aussi le voir, psychologue.
Oui,
ça existe.
Oui, Bernard, Madame Galula va devoir vous répondre d'ici quelques instants, mais vous parlez justement des cas de fausses accusations de viol. Mais qu'est-ce que vous dites justement de l'augmentation du taux de viol, notamment dans les villages, hein, dans les fins fonds du Sud Kivu? À quoi est due cette augmentation du taux de viol dans votre province?
Oui, la grande partie, c'est pratiquement du fait que les filles s'habillent d'une manière un peu, je fais le terme, permettez-moi le terme, Claude, d'une manière un peu, on dirait calembourdeuse. Donc,
c'est
à dire qu'il y a de ces filles-là qui sont en train de s'habiller contrairement. Elles mettent un peu leurs membres génitaux en relief des habits d'école, là. Et
Bernard
tout. Ça aussi, ça.
Oui, Bernard. Bernard, mais on nous savons tous que ce sont des groupes armés et des hommes en armes en général, hein, qui sévissent dans le fin fond de la province du Sud Kivu. C'est des milices, c'est aussi quelques éléments incontrôlés de l'armée nationale et même de la police. Nous avons même des exemples ici que nous allons devoir vous donner. Mais je ne me souviens pas que en province, dans les fin fonds de nos villages, les femmes ont la capacité financière de s'habiller en mini-jupe comme dans les grandes villes et même en pantalon et s'habiller en pagne. Comment vous pouvez vous dire que s'il y a augmentation du taux de viol dans le Sud Kivu, c'est parce que les femmes s'habillent mal?
Oui, j'ai fait allusion dans le grand centre ici, on dirait le chef-lieu des provinces, ici à Bukavu.
Oui.
Mais au fur et à mesure là-bas, c'est pratiquement les groupes armés qui sont en train de commettre les tels actes. Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça et je suis tellement conscient. Mais ici, quand vous, c'est pratiquement des filles, des femmes là qui sont en train de s'adonner là sur là et qui s'habillent complètement aux normes. Ce sont celles là qui disent qu'elles sont violées par les hommes. À tout temps.
Merci beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit. Je ne sais pas si c'est vraiment une justification pour ces viols, l'habillement des femmes. Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Bukavu au Sud Kivu.
Le sourire du jour, ça va bien au café.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Si vous venez de prendre en cours cette émission Parole aux auditeurs, l'émission de Radio Capi qui vous permet d'intervenir en direct pour vous exprimer sur le thème du jour. Je vous rappelle le thème d'aujourd'hui, augmentation du taux de viol au Sud Kivu, comparé aux chiffres de l'année passée, près de 1300 cas de viol enregistrés dans cette province juste pour les premiers mois de 2009, et ces chiffres dépassent déjà la moitié des cas enregistrés en 2008, soit près de 2300 cas de viol. Quelles sont alors les causes de ces phénomènes qui prend de l'ampleur en RDC, surtout au Sud Kivu et dans la partie est du pays, et quelles sont les mesures urgentes à prendre pour réduire rapidement, si pas éradiquer rapidement ces phénomènes? La parole aux auditeurs vous donne l'occasion de réagir en direct sur ces thèmes. Et si vous voulez le faire, appelez-nous au 081-99-77-800, 081-99-77-800, et nous vous rappellerons tout de suite après. Si vous nous appelez, envoyez-nous aussi vos opinions sur cette question par SMS au 09 98 999 222. Je le répète, 09 98 999 222, ça c'est notre numéro pour les SMS. Et par internet, faites-nous parvenir vos réactions à l'adresse PA comme parole aux auditeurs @radiookapi.net. Je vais me retourner un tout petit peu vers notre invité. Il s'agit de Madame Joséphine Galula. Elle est présidente de l'ONG Réseau Action Femmes. Madame, vous avez suivi Bernard de Bukavu au Sud Kivu qui affirme que certaines organisations envoient des femmes sur le terrain pour déclarer des faux viols, hein, ou bien accuser certaines personnes de les avoir violées, tout simplement pour que ces organisations puissent recevoir des financements.
Bien, monsieur le journaliste, j'ai suivi nos différents auditeurs, des Lubumbashi, de ceux qui vous et celui des Kinshasa. Je sens qu'il y a un problème par rapport à la définition de violence sexuelle.
il y a la population qui ne connaît pas, bon, à mon avis, hein, qui ne semble pas très bien connaître ces violences faites à la femme.
Est-ce que vous pouvez définir alors, vous pouvez les définir?
Oui, moi je
la violence sexuelle, c'est quoi?
C'est tout acte commis sur une personne sans son consentement et un trait à ce sujet, disons, ou bien ayant comme conséquence la destruction de ses organes, ou bien une des parties de son corps. Voilà un peu la sexualité en général pour ne pas trop s'exposer par rapport à la pudeur africaine. Voilà un peu, il n'y a pas que la conjonction des sexes, il y a aussi autre chose, les faits de l'harcèlement sexuel et la prostitution des enfants de moins de 18 ans, ou bien le mariage forcé et tout. Donc les violences sexuelles sont définies dans la loi du juillet 2006. Et ces violences sont définies par rapport aux différents actes posés. Voilà un peu comment je peux parler de cette question. Et quand les messieurs des Kastanga parlent de manque d'instruction comme un facteur des violences sexuelles, moi je me dis, les violences sexuelles ne peuvent pas, marcher ensemble avec les consentements. Parce que c'est d'abord un acte posé contre la volonté d'une personne donnée. Et de ce fait, lui, il a plus parlé des filles qui se livrent parce qu'elles sont moins instruites, elles font la rue. Mais si une fille a plus de 18 ans, on ne peut même pas, la catégoriser dans la série des victimes de violences sexuelles. Elle est consentante. Mais si elle a moins de 18 ans, là, même si elle est consentante, il y a violence à l'égard de cette femme, parce que d'après la loi sur les violences sexuelles, les enfants, ou bien d'après la convention relative aux droits de l'enfant, les enfants sont des personnes ayant moins de 18 ans. Mmh. Voilà un peu, l'âge, c'est pour celui qui a parlé de l'instruction. Et le monsieur de Sylvie qui vous a parlé de l'habillement qui est un des facteurs de violence sexuelle.
Oui, madame, on va vous récupérer juste dans une poignée de secondes pour continuer à répondre.
Parole aux auditeurs.
Oui, madame, répondez maintenant à cet auditoire du coup,
par rapport à l'argument de l'habillement, moi je l'ai dit, dans les temps, nous n'avions que des casquettes comme, de façon de se couvrir les corps. Mais on n'avait jamais enregistré les cas de violences sexuelles. Parce que les habits nous ont été apportés, n'est-ce pas, les pantalons, les pagnes et tout, ça nous a été apporté à un moment donné de notre histoire. Mais au départ, nous avions des casse-têtes. Mais on n'a jamais connu ces phénomènes-là. Bon, je crois que, et puis la plupart des victimes que nous enregistrons dans nos cliniques juridiques, ce sont des personnes démunies et qui n'ont rien à voir avec les loups, si on peut l'appeler comme tel. Mais je me demande comment les cas de violences sexuelles ou bien l'augmentation de ces cas peuvent être attribués à l'habillement. Et ces femmes qui sont victimes de violences sexuelles, surtout à l'Est, ce sont des femmes qui sont, qui tombent dans les filets pendant le moment de leur déplacement vers les champs ou bien pour aller chercher, je ne sais pas moi, les leurs marchandises ou quoi. Et je me dis, est-ce que ces personnes-là peuvent vraiment s'habiller avec des mini-jupes ou bien des serre-corps qui dessinent les corps pour pouvoir prétendre attirer les éventuels ou bien les présumés auteurs, je ne sais pas. Mmh. Voilà, un peu là, je m'inscris en faux avec cet argument.
Mais madame Joséphine, pour les femmes qui accusent faussement certains hommes de les avoir violés, tout simplement pour les extorquer, je crois que c'est Bernard de Boucard qui parle de quelques cas enregistrés dans des grandes villes. Votre réaction en tant que femme?
Oui, il a dit aussi, oui, les cas des femmes qui trompent ou bien qui veulent croquer les hommes en prétendant qu'elles ont été victimes de violences sexuelles. Mais je ne sais pas, moi je n'ai pas encore enregistré ces cas-là dans notre clinique juridique. Et je me dis que c'est à lui de prouver réellement que ce qu'il dit là est vrai.
Mmh.
Et c'est une des raisons peut-être qu'il lui trouve, mais moi, je n'ai pas de fait pour pouvoir adhérer à sa façon de voir.
Merci beaucoup, madame. On vous garde encore dans cette émission, puisqu'il y a déjà, j'ai sur mon écran, José de Chikapa au Kasaï occidental et Basubi de Bukavu au sud Kivu. On commence avec vous, José de Chikapa. Bonjour, José. Votre réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre de madame, et puis de madame Joséphine, et puis des autres auditeurs. Bonjour, José. Vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, je vous écoute.
Allez-y, votre réaction par rapport aux propos que vous venez de suivre de la part de madame Joséphine et même des autres auditeurs qui vous ont précédé.
Et je voulais aussi ajouter quelque chose.
Allez-y.
Oui, moi je dirais, malgré, à part tout ce que nos frères ont dit ou bien ont ajouté, moi je voudrais peut-être citer la pauvreté.
Qui est à l'origine
du marché.
Oui. Allez-y. La pauvreté est à l'origine de l'augmentation du taux de viol, notamment à l'est du pays. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Voilà. La pauvreté aussi fait pas. J'étais à Rumbashi dans un hôtel. Vers 11h, j'ai trouvé une jeune fille qui n'avait pas totalisé du sympa. J'ai demandé à la maman, à cette jeune fille, qu'est-ce que tu es venue faire ici? Elle m'a demandé, non, je suis venue chercher un ami. Il est dans la chambre numéro 10. Il dit, un ami, oui, j'ai dit, oui. Il m'a dit, oui, j'ai un ami ici. Alors, juste le monsieur est sorti. Alors, après un temps, la jeune fille, j'ai demandé à la jeune fille, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais oui, je suis en train d'étudier. J'ai dit, bon, qui supporte tes études? Il m'a dit, moi, je le supporte moi-même. J'ai dit, le papa est ta vie. Il m'a dit, oui, le papa est ta vie. Il fait quoi? C'était l'enseignant. Alors, j'ai compris que non, son papa n'a pas la possibilité de supporter ses études. Alors, la fille est en train de se démener par ses propres façons pour peut-être souffrir aux études.
Josué, est-ce qu'on va demander à Madame Joséphine hein, si ce cas représente aussi un viol quand une mineure consent d'elle-même de sortir avec quelqu'un qui a déjà atteint la majorité? Mais j'ai l'impression que vous nous éloignez un peu de notre sujet. Voilà, mais qu'est-ce que vous proposez justement pour mettre fin à ce phénomène de viol qui gâche la vie de beaucoup de nos sœurs, de nos mamans qui sont rejetées par leur mari, par leur famille et qui connaissent des situations extrêmement difficiles avec destruction également de leurs organes sexuels?
Bon, voilà, j'ai deux propositions. La première proposition, je vais demander au gouvernement de continuer à faire, continuer à bien aider les parents, à bien aider, de bien aider les parents. Et deuxième chose, comme à l'Est, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de attaques. Alors, le pauvre population ne peut rien faire pour éviter de résister aux attaques. Alors, nous disons seulement au gouvernement de chercher tous les moyens de pouvoir chercher la paix d'abord à l'Est. Quand il y aura la paix, alors on peut peut-être mettre fin aux violences, c'est peut-être ça.
Merci beaucoup, Josué, de nous avoir appelé deux Chikapas. On retient qu'il faudrait que le gouvernement, pour mettre fin à cette augmentation de viol, il faudrait que le gouvernement congolais rétablisse la paix à l'est du pays. Merci beaucoup de nous avoir joint depuis Chikapas au Kasaï occidental et bonne journée à vous.
Parole aux auditeurs.
Basubi, vous êtes à Bukavu au sud Kivu, justement à l'est du pays. Faut-il que le gouvernement rétablisse la paix à l'est du pays pour casser ou, écarter totalement ou balayer ou, je ne sais pas, effacer ce phénomène de la République démocratique du Congo, le viol? Oui, Basubi, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, je suis en ligne, Basubi de Bukavu.
Oui, vous êtes d'accord avec José de Chikapa pour qui, d'après lui, pour que ces phénomènes de viol disparaissent ou bien soient vraiment réduits dans notre pays, il faudrait que l'État congolais rétablisse la paix à l'est du pays où vous vous trouvez justement au sud Kivu.
Oui, les violences sexuelles favorisent pas. Il y a plusieurs choses qui favorisent les violences extérieures. D'abord, il y a l'habillement, il y a les filles qui se comportent mal.
Il y a quoi, l'habillement et quoi?
Il y a l'habillement.
Oui.
Il y a les filles qui s'habillent mal.
Mais...
Par exemple, à l'université, nous avons des filles qui s'habillent mal.
Mais par exemple, dans les villages de chez vous, là-bas au sud Kivu, où les groupes armés prennent de force certaines femmes et sortent avec elles, il y a aussi quelques éléments incontrôlés de l'armée nationale et même de la police nationale. Nous avons des cas, il y a plusieurs exemples, il y a même des condamnations. Est-ce que vous pensez que là-bas aussi, dans les villages, lorsque les femmes sont prises de force par les miliciens et par certains éléments incontrôlés de l'armée, de la police nationale, c'est aussi parce qu'elles s'habillent mal dans nos village?
Il y a aussi la corruption de la part de nos autorités. Il y a parfois, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a géré une fille, il est incarcéré, et demain, il est libéré. On ne sait pas si c'est comment. Il faut que l'État prenne des mesures sévères pour punir les gens qui ont commis des viols.
Voilà. Donc, merci. Vous pensez que l'État ne prend pas des mesures sévères pour punir les auteurs de viols? Dans votre
province? Non, il y a des gens qui sont incarcérés aujourd'hui, mais demain, parfois, on les trouve en cours de route, il est déjà libéré, on ne sait pas comment. Parfois, on dit qu'il sera incarcéré pendant 25 ans, mais demain, on les trouve en cours de route.
Merci beaucoup, Bassoubi, d'être intervenu de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Au revoir.
Parole aux auditeurs.
Richard, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Richard, partagez-vous le même point de vue que celui du précédent auditeur? Richard, vous êtes en ligne?
Donner un peu de lumière par rapport à l'histoire. Vous savez que en lisant le feu Kamita Tumasamba, Mobutu prenait les femmes d'autrui et prenait les femmes de ses collaborateurs. Donc la promotion de Tanapé a été acceptée par la femme. Et à cette époque-là, une femme l'a dénoncé ce que les autorités faisaient. Et même la Prima Courrier, quand nous regardons les journaux, disait que le pouvoir, c'était le sexe et l'action. Et deuxièmement, quand nous considérons le comportement de la femme par rapport à l'histoire, elle n'avait pas parlé. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Donc, elle doit s'en prendre d'abord à elle-même et par la suite considérer son comportement dans le foyer. Quand j'ai dit dans le foyer, là je vois le professeur Ndaïwen. Il a fait des études sur le comportement sexuel des couples dans les villes. Il avait tiré la première conclusion, 85% de femmes ne trouvent pas leur compte sexuel là-dedans. Et donc dénoncer ça pour. C'est ça le problème. Et quand nous prenons le deux faits, nous regardons aussi ce qui se passe chez nos frères qui partent à l'étranger, surtout en Europe. Les foyers se cassent. Les femmes cherchent la liberté, surtout la liberté sexuelle. Alors, ces choses-là, mises ensemble, en considérant aujourd'hui une armée, par exemple, et la police, faite de célibataires, mais les célibataires ne peuvent pas se contenir. Il faut qu'on regarde ces choses de près. Alors, maintenant, quelle est la solution? Première chose, que les femmes condamnent leurs aînés, ces mères, qui avaient occupé des postes sous Mobutu, qui avaient fermé la bouche. Deuxième chose, que l'armée et la police soient une armée de maillés. Ça, c'est deux. Troisième chose, il faut que les violés dénoncent les violeurs. J'ai fait un travail pour faire une émission contre le viol. Les femmes violées, c'était le nom de leurs violeurs. Ça fait que quoi? Et trouver leur compte. Alors, pour la peine, qu'on institue la peine de mort auprès des violeurs. Et on verra comment les choses vont marcher. Qu'on arrête aussi les femmes qui ne dénoncent pas leurs violeurs. Merci beaucoup, c'est ça ma contribution.
Merci beaucoup pour votre contribution. C'est le docteur Richard, n'est-ce pas?
Oui, c'est moi, c'est Richard Bédicheur.
Merci beaucoup, Richard, pour, docteur Richard, pour votre contribution régulière dans cette émission Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup.
Bonne journée à Kinshasa.
Oui.
Voilà, on revient à vous, Madame Joséphine Ngalula. Vous êtes notre invitée dans cette émission Parole aux auditeurs. Vous êtes présidente de l'ONG Réseau Action Femmes. Votre réaction par rapport aux propos du docteur Richard, il propose notamment, il a fait plusieurs propositions. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il a parlé de l'époque Mobutu, au sujet de l'exaltation de Mobutu malgré son comportement à prendre les femmes de ses amis. Moi, je me dis que ces comportements étaient dénoncés par ceux qui avaient encore l'éthique et qui avaient encore des valeurs. Ce n'est pas tout le monde qui avait applaudi ces comportements, sinon on n'allait pas avoir de l'opposition. Et c'est entre autres aussi que c'est par ce phénomène-là que les gens se sont opposés contre lui. Et puis ensuite, je me dis que nous pouvons, c'est vrai, dénoncer bien, réprimander nos mères ou bien nos grandes sœurs qui s'étaient livrées à cette besogne à l'époque de Mobutu. Mais moi, je me dis que ces femmes-là l'ont fait peut-être sous contrainte et c'était par consentement. Et quand une femme se livre à un acte sexuel par consentement, on ne peut pas parler des violences sexuelles. Hein, on peut pas parler des violences sexuelles.
Même si c'est une mineure.
Pardon, si,
même si c'est une mineure, on ne peut pas parler de violences sexuelles
si
ni de violences.
Si c'est une mineure, on doit parler des violences sexuelles. Parce que la loi nous interdit justement de ne pas, avoir des relations sexuelles avec une fille mineure. Ouais. Tout ce qui est qui n'est pas prescrit dans la loi est en défaveur de la mineure. Je vous ai expliqué ici que la prostitution des mineurs fait partie des faits retenus dans les cadres de violences sexuelles. Il y a aussi, le mariage forcé, hein, ou bien le fait de donner un mariage précocement à une fille. Les parents ont accepté la dot et ils donnent un mariage d'une fille de moins de 18 ans. Ces parents-là sont passibles de cette disposition relative à violence sexuelle. Voilà un peu comment je peux répondre. Mais maintenant, là, la sanction par rapport à la peine de mort.
Oui.
Dans la loi sur les violences sexuelles, la peine de mort est abolie et elle est remplacée par la prison à perpétuité comme proposition.
Mmh.
Et voilà un peu, et puis bon, c'est vraiment dans les cas extrêmes où dans les ces actes a pu donner suite à la mort, ou bien en cas de la transmission délibérée des maladies sexuellement incurables, comme les VIH, parce qu'on n'en parle pas trop. On voit des grands boinards avec beaucoup de moyens qui sont déjà malades de sida et qui courent la rue, tout ça pour transmettre cette pandémie, disons ce virus, en disant par exemple que non, pendant mon côté, je ne mourrai pas seul. Et ce sont des choses qu'on ne dit pas trop, mais moi je crois que tout le monde doit savoir que le fait de se comporter de la sorte, la loi sur les violences sexuelles réprime.
Mmh.
Et voilà un peu, il y a tant d'autres exemples qu'on peut donner ici. Je crois que les docteurs qui sont intervenus tout à l'heure peuvent s'apaiser, parce que on ne peut plus, dans la loi sur les violences sexuelles de juillet 2006, la condamnation ou bien la peine capitale n'est pas à l'ordre du jour. Il y a la prison à perpétuité.
Merci madame, on vous récupère dans une poignée de secondes.
Parole aux auditeurs.
Henri est en ligne, est au bout du fil depuis Kananga, Kalemi, dans la province du Katanga, de même que Roger de Kinshasa, et vous êtes également en ligne. Juste un tout petit peu de patience, le temps pour moi de poser à Madame Joséphine Galula, de l'ONG, présidente de l'ONG Réseau Action Femme, une autre question. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez, Madame Joséphine?
Oui, c'est le réseau Action Femmes.
Le réseau Action Femmes.
Voilà, c'est un collectif d'ONG, associations, syndicats et départements des organisations des confessions religieuses qui forment le réseau. Donc, c'est comme une plateforme.
Oui.
Donc, c'est pas une ONG. Bon, voilà.
C'est une plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Mais une autre question. Le docteur Richard. Excusez-moi, madame, on entend beaucoup de bruit tout autour de vous. Il y a le docteur Richard qui a affirmé que certaines femmes aussi ne dénoncent pas les violeurs parce qu'elles trouvent leur compte. Est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur Richard?
Oui, il y a des femmes qui ne dénoncent pas justement les cas de violences sexuelles parce qu'elles sont peut-être déçues ou bien elles ont pu entendre des causeries quelque part ou celles qui ont pu dénoncer n'ont pas trouvé bien des causes. Ainsi que ces femmes-là sont déçus, bon, elles se disent, bon, si je dénonce, bon, et après, bon, les auteurs sont arrêtés aujourd'hui et libérés demain, et ça crée un découragement. C'est ainsi qu'au début de notre émission, j'ai parlé de l'impunité qui a élu domicile, voilà un peu.
Mmh. Merci beaucoup, madame Joséphine Ngalula. On vous garde encore dans cette émission. Richard, nous allons nous rendre à Kalemi, dans la province du Katanga. Et Henri est déjà là pour pouvoir nous accueillir afin d'intervenir dans cette émission Parole aux auditeurs. Bonjour Henri, votre réaction. Partagez-vous le même point de vue que celui de madame Joséphine Ngalula?
Oui, bonjour monsieur. Moi, j'aimerais réagir sur trois points. Il y a trois facteurs que j'aimerais relever.
Oui.
C'est d'abord dans le domaine éducatif, au niveau de l'école. Nos filles sont violées. C'est l'amour d'abord des points. Il y a des filles qui se laissent emporter par les points. Alors, c'est un facteur qui pousse les filles d'être violées.
L'amour des quoi? Facteur, l'amour des points.
Ouais, l'amour des points.
À l'école.
Ouais, à l'école.
Mais comment est-ce qu'une fille peut accepter de se faire violer pour obtenir des points? Parce que quand on parle de violer, c'est se faire prendre par la force.
D'accord. Quand je dis le langage violer, vous savez, pendant ces temps, la période qu'elles sont en train de traverser, c'est la période des examens. À présent, presque tous les enseignants se mettent à calculer les points. Il y a les filles qui passent aux portes des enseignants, voir qu'est-ce qu'elles vont faire, est-ce qu'elle va réussir, tout ça, elle a des doutes. Mais de là maintenant, et quand elle arrive, elle entre à la maison, tout ça, le professeur avec sa méthode, disons, et sa position aussi, il pourra dorloter l'enfant et l'enfant pourra se laisser courtiser, après quoi elle commence à regretter.
Et qu'est-ce que vous pensez alors des gens qui violent nos sœurs, nos mamans dans les villages les plus reculés? Ça peut être aussi chez vous, hein. Vous avez connu aussi beaucoup des milices au Katanga. Et est-ce que la même raison s'applique également sur ces viols au Sud Kivu, au Nord Kivu, où les groupes armés sévissent de même que certains éléments incontrôlés de l'armée nationale et de la police?
Oui, monsieur, pour le cas des viols faits aux mamans, moi, je suis contre. Pourquoi? Parce que moi, j'étais victime d'un viol, mais quand je disais aux gens, et on se moquait de moi pour dire non, un homme ne pourra jamais être violé, alors je parlais aux gens, on ne prenait pas en considération ma déclaration. Alors, c'est pourquoi je vois que c'est une histoire de deux poids, deux mesures.
Et que proposez-vous alors pour mettre fin à ce phénomène de viol dans toute la République démocratique du Congo?
La proposition est d'appliquer la loi en vigueur, mais à présent, nous voyons les gens qui violent sont arrêtés dans... Il y a quelqu'un de 3 mois, il est libéré, on lui voit et il s'estime librement.
Et vous avez été violé dans quelles circonstances? Vous êtes un homme, hein, mais ça n'arrive pas tous les jours qu'un homme soit violé. Vous avez été violé dans quelles circonstances?
Oui, monsieur, moi j'ai été victime d'un viol quand je prenais un verre. Maintenant, je ne suis plus dans ma conscience. Maintenant, une femme m'a pris et m'a amené dans sa maison. Le matin, comme ça, à 4h, je m'étais retrouvé dans sa maison. Alors, il y avait déjà des relations sexuelles, tout ça. J'ai juste communiqué à la maison, à mon petit frère, pour venir attraper la maman. Mais quand l'histoire était allée aux gens, on se moquait de moi, alors...
Donc vous dites que vous avez été violé par une femme.
Ouais.
Merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Kalemi dans la province du Katanga.
Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081 99 77 800 par internet ca@radiookapi.net.
Madame Joséphine Ngalula est déjà dans notre studio. Je rappelle qu'elle est présidente de la plateforme Réseau Action Femmes. Voilà, madame, vous êtes déjà parlé devant le micro, s'il vous plaît. Vous pouvez le dire devant le micro. Allez-y.
Oui, je suis coordinatrice nationale du Réseau Action Femmes.
Coordinatrice nationale du Réseau
oui,
Action Femmes.
Je coordonne les organisations, des ONG, associations et syndicats. et les branches du département des femmes des confessions religieuses.
Madame, on vient de suivre un témoignage qui nous vient de Calémie, au Katanga. Il y a un homme qui s'appelle Henri qui nous a dit qu'il a été violé par une femme après avoir bu un verre de trop. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, parce qu'on parle souvent des hommes qui violent des femmes, mais un homme qui est violé par une femme en Calémie, comment réagissez-vous? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vraisemblable? Ça peut se passer, madame. Vous avez déjà eu aussi ce genre de... Vous avez aussi connu ce genre de cas dans vos informations?
Oui, disons que les viols n'est pas seulement à l'endroit de la femme qui peut prétendre être victime. Les hommes aussi peuvent être victimes de viols. Pour les cas de monsieur de Calémie, Henri, il a bien expliqué l'état dans lequel il s'est trouvé. Et je ne sais pas si, comment dirais-je, le monsieur a été emporté ou bien amené des forces par cette femme jusque dans sa maison.
Il a bu un verre de trop, il était ivre.
J'ai suivi les faits. Et comment il s'est retrouvé dans la maison de la femme? Est-ce qu'on l'a amené par force? Est-ce que, je ne sais pas, les circonstances qui avaient entouré, disons, la destination de M. Henri? Mais comme lui, il déclare qu'il a été victime de viol, nous lui concédons cette déclaration parce que ça n'a
mais
pas
mais
été...
Mais vous ne dénoncez pas souvent hein, les viols des hommes par les femmes. Nous les organisations des femmes, apparemment, vous
non,
ne dénoncez
non,
pas.
Non, non, nous les dénonçons si nous en avons des preuves.
On vous entend souvent crier contre les hommes hein, qui violent les femmes, mais
oui,
qui violent aussi les
hommes. Oui, tout est fonction de faits recueillis dans la communauté. Si nous avons suffisamment de cas, nous pouvons dénoncer. Moi, je me rappelle qu'en 2004, il y a eu, par exemple, à l'Université Pédagogique Nationale, les étudiants revendiquaient, il y a un étudiant qui était victime de viol de la part de policiers commis à l'université pour remettre l'ordre qui était troublé par rapport aux revendications étudiantines. Alors moi je l'ai dit que ces garçons, moi je l'ai vu, j'ai parlé
c'est
avec lui,
un garçon qui a été violé par une policière.
Par un homme. Et non un garçon qui était violé par une femme. Moi j'ai vu ces garçons à l'hôpital puisqu'il était interné. Et à la Kiningalie, moi j'ai parlé avec lui. Il y a eu aussi à l'époque les cas de dénonciation des viols du côté des hôtels Okapi vers Mbinza Météo. Et là, c'est un pasteur aussi qui avait dénoncé qu'il était victime des viols de la part de milices féminines des militaires des sexes féminins qui habitaient l'ex-hôtel Okapi. Et bon, nous disons
vous avez
que
vérifié l'information, c'était quoi?
C'était, des faits qu'on a allégués, mais qu'on n'a pas vérifié. Et moi, je me dis que la dénonciation dépend de faits que nous recueillons.
Voilà, merci beaucoup, madame.
Parole aux auditeurs.
Roger de Kinshasa est déjà en ligne, de même que le pasteur Bonnier de Tikwit. Et de Mata dit, nous avons Mata dit de Kisangani. Je pensais que c'est un auditeur de Mata dit. Je les invite quand même à réagir aussi beaucoup, hein, les auditeurs de Mata dit, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Appelez-nous au 081 99 77 800. Appelez-nous avec vos unités, quelques secondes, et si vous nous donnez votre numéro, et nous, on va vous rappeler, et vous allez intervenir dans cette émission avec les unités de Radio Okapi. Comme tous les auditeurs, c'est avec les unités des crédits de Radio Okapi qui interviennent. N'ayez donc pas peur. Je vais lire quelques mails et SMS. Claudine Maindo de Paris pense, quant à elle, que pour mettre fin aux viols qui se font au Congo, particulièrement au Kivu, il faudra tout d'abord identifier les coupables et ou leurs responsables, ensuite faire un grand procès public et exemplaire qui soit relayé par les médias au cours duquel ceux-ci seront reconnus coupables, soit publiquement condamnés à des peines lourdes. Jacques de Kinshasa pense que la recrudescence du viol au Congo est liée au manque de sanctions exemplaires. Les violeurs se promènent sans inquiétude. Moussa de Bukavu Sud-Kivu se demande quels sont les risques réels ou probables auxquels s'exposent les auteurs des violences sexuelles devant nos juridictions et la CPI. L'UNEX de Kindu au Maniema pense que la tenue des femmes n'est qu'un prétexte, même là où les femmes se couvrent de la tête aux pieds, tel que dans les pays
pays arabes, elles sont aussi victimes de viols. Et que dire des bébés qui sont violés? C'est un problème mental. Baudry de Kindou Maniema pense également que nos mamans qui sont violées à l'est dans les champs, elles n'y vont pas en mini-jupe. L'habillement n'est pour rien. C'est la mentalité, c'est un problème de mentalité. Avis que partage aussi Robert de Bukavu. Sabrina, qui ne nous dit pas d'où elle nous écrit, pense qu'un viol, qu'il soit provoqué ou non, c'est un viol. C'est non fondé quand on parle de provocation, car les vieilles dames qui sont violées chez moi n'ont pas provoqué les militaires, donc l'auteur doit être puni sévèrement. Kamala de Boutembo au Nord-Kivu pense quant à lui que les militaires incontrôlés font à la base des viols. Pasteur Martin de Kindo Maniema pense que les premiers violeurs, ce sont les musiciens, les deuxièmes, ce sont les militaires, les troisièmes, ce sont les drogués, et le quatrième, c'est l'État, et le cinquième, ce sont les parents et la religion. Voilà. Et un anonyme pense aussi que la violence sexuelle est comparable à une épidémie qui doit être traitée à deux volets préventifs, c'est-à-dire lutter contre le comportement séduisant, entre autres, le mauvais habillement et curatif, c'est-à-dire la prise en charge des violés et la sanction aux violeurs. Enfin, Kamango de Bénionan, si vous pensez qu'il y a une catégorie de familles qui encouragent les violences sexuelles, car si elles apprennent que les violeurs a beaucoup d'argent, elles se contentent des arrangements à l'amiable avec les violeurs et l'officier de police judiciaire pour gagner de l'argent. Robert, vous êtes à Kinshasa. Vraiment, il ne nous reste 6 minutes à peu près pour terminer cette émission. Vraiment rapidement, en 30 secondes, bonjour et quel est votre point de vue? Réagissez par rapport à ce que vient de dire nos auditeurs dont je viens de lire les SMS et les mails.
Allô, bonjour Claude.
Bonjour Roger, rapidement en 30 secondes, réagissez par rapport aux mails que nous venons de lire.
Oui, Claude, moi je voudrais, bon, le mail, bon, je le prends, j'entends et je n'ai vraiment pas un commentaire à faire. Je voulais dire ceci par rapport aux violences dues aux hommes armés. Il y a un problème d'abord de l'éducation des militaires. Il n'y a pas de mauvaises troupes, dit-on, il n'y a que des mauvais chefs. Vous avez là-bas des statistiques de viols qui se commettent au Kivu depuis le début de l'année. Est-ce que vous avez des statistiques sur des jugements prononcés contre les violeurs? Même si on ne prend pas, on ne met pas la main sur les violeurs, mais on connaît de qui dépend l'unité dont est issu les violeurs. Il y a des régions militaires, il y a des circonscriptions, il y a des brigades et toutes les subdivisions possibles. On connaît les commandants de toutes ces divisions et de toutes ces brigades-là.
Mais il y a aussi des miliciens, hein?
Il y a aussi des miliciens, non. Prenons d'abord le cas des non-militaires à nous, parce qu'ils sont aussi là-dedans. Oui. Vous avez vu combien de commandants jugés par l'auditorat militaire est condamné? Presque pas.
Dernièrement, un colonel, hein? Dernièrement, un colonel qui s'appelle Toms a été condamné, je pense, dans la province orientale.
Un cas sur mille, c'est rien du tout. C'est timide, ça ne signifie rien du tout. Il y a d'abord le comportement militaire des militaires qui ne sont pas très très bien instruits là-dessus. Il y a l'autre chose, c'est la justice. Les magistrats ne jouent pas franc jeu pour décourager les violeurs. Parce que vous avez les violeurs qu'on arrête aujourd'hui et qu'on libère demain. Vous avez vu ici à Kinshasa, il y a un violeur de la commune de Bumbu qui était à Makala, il a fait un mois, il est sorti. Et quand il est sorti, il est allé intimider la famille de la victime.
Voilà. Merci beaucoup.
Voilà, cette fois-là, je vais maintenant vous tuer.
Merci beaucoup, Roger, d'être intervenu de Kinshasa. On a encore 2 minutes. Il y a beaucoup d'autres auditeurs. Merci pour votre rapport. Pasteur Boni, vous êtes ici. Bonjour, en 30 secondes. Quel est votre point de vue?
Le babouche, c'est pour ma cathédrale.
Pasteur Boni,
s'il vous plaît.
Monsieur Matadi, vous êtes à Kisangani, dans la province orientale. Bonjour d'abord, et votre point de vue en 30 secondes, parce qu'il ne reste que très peu de temps.
Oui, bonjour Claude. J'ai vraiment été trop petit par rapport à l'intervention de Madame Galula. Je vous ai appelé si nous étions à un séminaire à Kisangani au mois d'avril, parce qu'elle me connaît, je les connais. Il y a une question. C'est le mécanisme qu'ils ont mis en place pour sécuriser ces jeunes filles qui sont violées? Parce que vous savez, nous sommes Africains. Une fois que le procès passe en public, et c'est connu que cette femme a été violée, qui va l'épouser après? Et il y a un problème déjà. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense, s'il y a des procès organisés, que ce soit dans des femmes foraines, aussi pour la dignité de cette femme, de cette jeune fille violée, parce qu'elle est violée à 15 ans. Et mais quelques temps après, elle doit être mariée. Qui va prendre une femme qui a été violée par 30 personnes? Donc, ouais. Moi, je pense qu'il faut qu'il manque des mécanismes pour cette peine de procès.
Merci. Merci beaucoup, Matadi. Vous êtes actif en Mali, dans la province orientale. Merci pour votre rapport. Madame, avec vous, quel mécanisme pour protéger les femmes violées? Parce que dans notre culture africaine, il est difficile de prendre en mariage les femmes violées. Ça se vérifie sur le terrain.
Ok. Je crois qu'il y a les principes directeurs d'accompagnement des victimes qui est déjà là dans notre pays. Nous travaillons avec ces principes, c'est-à-dire nous devons veiller vraiment alors à la protection de la victime par ce qu'on appelle, la protection pour ne pas dénoncer. Et les victimes ne sont pas exposées par rapport au procès, ce sont les gens qui interviennent, par exemple, et la population qui exige que les procès soient publics. Mmh. Et on peut dissimuler, par exemple, la personne en lui donnant uniquement les micros et elle intervient, l'auteur, le présumé auteur et intervient à découvert. C'est aussi une façon de protéger la victime. Mais les principes directeurs nous demandent de ne jamais exposer la
voilà. Victime. Et que faire alors pour justement arrêter ce phénomène?
Pour arrêter ce phénomène, je crois que l'État doit restaurer son autorité sur toute la République. Et on doit mettre fin à l'impunité par la réforme de la justice et la création des conditions de paix, de sécurité. Je crois que ça va vraiment... Et ceci est de la responsabilité des États.
Merci beaucoup, Madame Joséphine Galla, d'être intervenue dans cette émission.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Nous terminons par ici cette émission Parole aux auditeurs. Demain vendredi, nous débattrons avec vous du phénomène enfants de rue en RDC à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Quels sont les premiers responsables de ce phénomène, les parents ou l'État ou encore d'autres acteurs, et comment lutter contre ces phénomènes qui perdurent en RDC? Réagissez dès maintenant en nous envoyant vos avis sur cette question par SMS au 09 98 999 222 et par Internet à l'adresse pa.paroleauxauditeurs@radiocapi.net. Cette émission était produite en collaboration avec l'Unité des Nations Unies chargée de la formation, de l'appui aux institutions et de l'éducation aux droits des langues Siba en Sidio. Kikim Poutou et Piero et Lamegi l'ont préparé sous la coordination de Ben Kabamba et Dieudonné Nyangaza, la mise en onde. Au revoir. Et take care, comme disent les Anglais, prenez soin de vous.